Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Pour ce Radio Bark numéro 12 de la 8e saison, nous avons invité aujourd'hui André Hernandez. Bonjour.
Bonjour, Juliette, et bonjour à tous vos auditeurs.
Alors, vous êtes, André Hernandez, d'abord, dans l'ordre, si je puis dire, maire de Canet d'Aude, je précise bien. Vous êtes également président de l'intercommunalité Lézignan-Corbière-Minervois, ça s'appelle comme ça. Et vous avez également des responsabilités dans l'eau, si je puis dire, l'eau aquatique, dans un... comment ça s'appelle ? C'est un syndicat de bassin versant ?
Voilà, un syndicat de bassin versant, de l'Orbieux et des Jours, qui fait partie évidemment du SMAR.
Voilà, qui fait partie du SMAR, le grand syndicat audois des milieux aquatiques et des rivières.
Voilà.
Bien entendu, on va revenir sur toutes ces choses et sur ces responsabilités, mais... André Hernandez, commençons par le début, puisque c'est par là que ça, de toute façon que ça commence. Il faut être élu dans une commune pour pouvoir aller dans l'intercommunalité. Vous êtes depuis fort longtemps alors élu sur Canet et maire depuis pas mal de temps.
32 ans.
32 ans. Bon, alors vous avez eu le temps de vous habituer à tout ça. Vous nous aviez, dans une émission précédente, expliqué que vous avez une politique urbanistique, comme tout le monde, qui consiste à trouver un équilibre, c'est-à-dire on veut développer le village, mais pas trop. Où en êtes-vous aujourd'hui? Je crois que vous étiez fixé à un seuil d'environ 2000 habitants. Est-ce que vous êtes toujours sur ces eaux-là?
Alors, on est toujours dans ces eaux-là. Nous n'avons toujours pas, d'ailleurs, révisé notre plan local d'urbanisme, puisque je vous l'avais dit et je le confirme, on veut contenir aussi l'expansion du village, puisque nous devons garder une certaine ruralité pour qu'il y ait une vie quand même dans le village et pas devenir exclusivement un village dortoir. Et on se rend compte aujourd'hui que dès lors que vous faites un lotissement, d'abord il se garnit très vite, puisque notre position entre Narbonne et Lézignan nous privilégie par rapport à ça, et puis avec tous les services que nous avons sur le village. Et alors donc aujourd'hui, on essaye de mesurer, et on a un plan local d'urbanisme qui nous permettra encore de progresser. On doit être pas très loin aujourd'hui, 1900 et bientôt 2000 habitants, mais voilà, on a quelque chose qui s'est fixé autour de 2005 dans les 15 années peut-être ou 20 années qui viennent, mais pour ma part, voilà dans quoi je veux contenir le village. Pour qu'il reste donc avec son âme qu'il a aujourd'hui encore.
Oui, voilà. Là, c'est un choix. Vous savez où vous voulez aller à ce niveau-là,
oui.
André Hernandez. Alors, une petite remarque. Vous avez vous-même fait allusion au positionnement de Canet entre Lézignan et Narbonne. Alors, certaines communes, je pense à Ressac ou Vintenac, qui sont voisines de votre commune,
oui,
se sont tournées vers Narbonne au niveau de l'intercommunalité, vous vers Lézignan. De quoi ça vient? Est-ce que c'est un pouvoir d'attraction naturel pour les Canetois, la ville de Lézignan, ou pas?
Alors, je dirais pas ça,
si vous
parce
êtes
que
à mi-chemin,
on est tourné autant sur Lézignan que sur Narbonne. Bon, la seule chose, c'est que, d'abord, nous touchons Lézignan, nous sommes limitrophes, nous sommes dans la couronne, la première couronne. Puis ensuite, il y avait les problématiques de l'eau, puisque la Jour qui naît dans la Larrigue passe à Lézignan et arrive dans Canet. On avait des problématiques également pour l'eau. Et puis voilà, et puis la ruralité aussi, on se trouvait bien dans cette commune. Mais c'est vrai que les gens sont tournés pour beaucoup dans le commerce lézignanais, mais pas que. Hein. Donc on a aussi, comment vous dire, des acquaintances avec la ville de Narbonne. Ça s'est trouvé comme ça, mais c'est surtout le fait que nous soyons très limitrophes et première couronne de Lézignan qui a fait que nous avons penché pour Lézignan.
Oui, donc il y a quand même une raison, forte, on peut dire.
Géographique, je dirais.
Oui, géographique, oui. Donc, mais la géographie, ça s'impose.
Oui.
Qu'on le veuille ou non.
Oui.
Alors, André Hernandez, revenons sur votre commune de Canet. Vous nous avez expliqué ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, alors l'économie, ça reste la vigne. Hein, je crois que la vigne reste le pôle fort.
Oui.
Et vous avez gardé une cave coopérative.
Oui, une cave coopérative très performante, d'ailleurs.
Qui a dû fusionner avec beaucoup d'autres.
Avec beaucoup de villages qui viennent sur notre commune maintenant, parce que, comme je disais, elle est très, très compétente et très performante. Et donc, elle est reconnue départementalement comme une très bonne cave coopérative, très bien gérée. Et donc oui, vous savez que, par exemple, l'année dernière, nous sommes arrivés jusqu'à 140 000 hectolitres de vin. Vous voyez un petit peu l'importance de la cave. Mais aujourd'hui, c'est l'économie numéro un. Même si on a une petite zone artisanale, aujourd'hui, c'est quand même l'économie numéro un dans notre village.
Et comment se fait-il que, justement, Canet ait su garder cette cave coopérative alors que beaucoup d'autres ont dû fusionner ? C'est un secret pour personne.
Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est dû à la gestion et à la performance de la cave. Dès lors que des conseils d'administration, des directeurs, des présidents se sont investis pour que, évidemment, on puisse vinifier de très bonne façon, qu'on ait pensé à la commercialisation, et donc, parce que c'est quand même l'issue, hein, il faut commercialiser le vin, et je crois que tous ces gens-là qui sont aujourd'hui en poste ou qui étaient auparavant ont tout fait pour que Canet soit toujours une cave attractive. Et donc, ça a incité les autres à venir nous rejoindre.
Oui, c'est-à-dire qu'au moment où il a été nécessaire de fusionner, la cave de Canet avait une longueur d'avance, on peut dire.
On va dire ça.
Oui, oui, oui. Et alors, parmi les éléments fédérateurs, alors ça, c'en est un, puisque c'est économique, vous nous aviez expliqué, alors, d'abord, par passion personnelle, il y a le rugby, puisque vous avez été joueur de rugby, mais on sait que dans beaucoup de villages, traditionnellement, le rugby était un élément, je dis bien était, un élément fédérateur. Beaucoup de clubs, là encore, je fais un parallèle avec les CAF coopératives, ont dû fusionner. Où en est Canet d'Aude aujourd'hui ?
Alors nous avons fait le chemin inverse. L'équipe dirigeante actuelle a souhaité redevenir l'AS Canet, Canet d'Aude, uniquement. Et donc je rends hommage à son président, Walter Langlade, et à son groupe de dirigeants, qui font qu'aujourd'hui on est une équipe très performante. Alors je ne sais pas si vous suivez les résultats du rugby, mais nous sommes premiers de poule invaincus, nous jouons dimanche à nouveau contre Corbière-Maritime. Et donc aujourd'hui, c'est une très belle équipe et ça a redonné de l'âme au village, parce que le rugby dans nos villages, c'est véritablement une animation. Tous les gens qui se retrouvent autour du stade le dimanche. Ça le reste encore. Enfin, actuellement, parce qu'on a une très belle équipe, parce qu'on a une équipe dirigeante très engagée, parce qu'on a de très bons résultats, parce que beaucoup de jeunes issus du village ou d'alentour jouent dans cette équipe, c'est quelque chose qui est très prisé.
Oui, ça fixe un peu les jeunes sur le village, d'une certaine façon.
Voilà. Mais quand on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs du cru, ça donne davantage pour la défense du maillot, vous le comprenez.
Oui, 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 on mouille le maillot plus volontiers parce qu'il est canetois.
C'est ça.
Voilà. Et alors, vous nous aviez aussi expliqué, André Hernandez, que vous êtes très intéressé par tout ce qui est la culture au sens général. Vous avez un passé d'ailleurs d'enseignant, si je ne me trompe. Et vous pensez qu'également que ça c'est un élément fédérateur et vous faites des efforts pour intégrer les gens dans la vie associative de votre village. Quelles sont les associations les plus attractives à ce niveau-là ?
Alors d'abord, je crois qu'un maire doit s'intéresser au mouvement associatif. Pourquoi ? Parce que il a à se préoccuper de la rencontre des gens, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, intergénérationnels. C'est son travail de faire en sorte qu'il y ait de la vie dans les villages, et c'est le mouvement associatif qui est porteur de ça. Et donc nous devons les encourager, les accompagner, etc. Un grand effort a été fait, par exemple, chez nous, pour que chaque association ait son local. Et ça aussi, c'est important. Et aujourd'hui, on a évidemment des associations importantes. Alors, je vous ai parlé du rugby, j'aurais pu vous parler de la Maison des Jeunes, j'aurais pu vous parler d'autres associations, parce qu'il y en a un grand nombre. Mais voilà, aujourd'hui, nous accompagnons très fort les associations, même si c'est difficile, parce que vous le savez, elles sont confrontées, elles aussi, au problème du bénévolat, qui s'étiole un petit peu, mais nous faisons en sorte de les aider au maximum.
Donc, au point de vue, alors, culture, dans une commune, c'est difficile. Par exemple, on peut pas avoir un théâtre, on a quand même une maison des jeunes. Mais au point de vue spectacle, par exemple, est-ce qu'on arrive à attirer un certain nombre de spectacles sur sa commune?
Alors oui, parce que, la commune, c'est très transversal, vous le comprenez. C'est ce qui permet de fédérer les gens, c'est ce qui permet aussi d'attirer les gens, des voisins. Et c'est important aussi de faire rayonner son village. Et donc, sur la commune de Canet, nous avons deux gros événements importants. Alors, il y a d'abord, et je ne veux pas les oublier, ce que portent les associations, parce que dernièrement, par exemple, il y avait un concert des hommes organisé par l'association Saint-Martin, et donc c'était un moment très fort. Mais nous, la municipalité, nous avons un festival d'été qui est très prisé, et nous avons un festival de théâtre amateur. et là aussi qui a un très gros succès, qui est devenu un festival régional, qui est accompagné également par les gens du TQS. Mais donc voilà, nous faisons en sorte que pendant l'année, il y ait tout un tas d'événements, d'animations qui permettent aux gens de se rencontrer, de sortir. Et bon, c'est vraiment une volonté municipale, mais également associative.
Et ce festival, c'est quel type de festival? Quelle sorte de spectacle?
Alors, le théâtre, évidemment, c'est le théâtre basé sur les comédies. On appelle ça les vendanges de l'humour, uniquement des comédies. Quant au festival d'été, bon, c'est très éclectique. Il peut y avoir de la musique, mais souvent, c'est de la musique. Par exemple, cet été, nous recevrons un grand groupe de musique cubaine, qui sera un grand événement. Mais pas que, L'année dernière, nous avions invité Eco à venir, mais bon, il a fallu l'annuler à cause du Covid. Voilà. Nous espérons que cet été, ce sera possible, mais voilà, il peut y avoir plusieurs animations et des spectacles aussi qui peuvent attirer la jeunesse. Je pense à Jeff Sénégas, qui est du CRU, que nous avions fait venir une année. Peut-être qu'on fera revenir un autre jour, voilà, permettre aussi que tout le monde puisse trouver son compte.
Oui, et là, la mairie est partie prenante dans ce festival d'été.
Elle est tout à fait partie prenante, c'est elle qui l'organise.
Qui finance,
Et en même temps, je crois qu'on ne peut pas faire sans les associations. Donc on les associe, toutes celles qui veulent, pour faire la buvette, pour faire le repas, de manière qu'elles trouvent là aussi une source pour pouvoir, évidemment, avoir des subsides pour leur fonctionnement. Donc on associe toutes celles qui le souhaitent à ces événements. Et donc ça renforce l'animation. À partir du moment où, par exemple, la pétanque vient faire le repas, que la maison des jeunes vient vendre ses crêpes, etc., ou faire la buvette, et comme pour la fête de la musique, par exemple, on s'aperçoit que l'événement prend beaucoup plus d'importance.
Oui, et ça permet pour chacun ou pour chacune d'entre elles, de ces associations, d'alimenter la pompe à finances un petit peu.
C'est ça. C'est une manière de les encourager et de leur donner l'opportunité d'alimenter, comme vous dites, leur pompe à finances, qui est indispensable pour leur fonctionnement.
On marque, André Hernandez, une première pause. On se retrouve dans une seconde partie où on va beaucoup plus évoquer vos responsabilités sur la Communauté de communes de Lézignan, Corbières, Millervois.